Salut Philippe.
Salut Patrick.
OK, le Canadien lance son plan de lutte aux violences, aux cyberviolences sexuelles. Tu trouves que c'est très positif, mais ça vient de la même organisation qui a repêché Logan Mailloux.
Oui, tout à fait. Alors, je vais essayer de décortiquer ça un peu, Patrick. D'abord, la bonne nouvelle, c'est la personne responsable chez les Canadiens de l'implantation de ce programme-là qui s'appelle Respect et consentement. Là, il y a une somme de 2 millions de dollars qui a été dégagée pour effectuer des efforts de sensibilisation. Et la personne responsable, elle s'appelle Geneviève Paquette. Geneviève Paquette, c'est pas quelqu'un qui est très connu du public, mais elle est vice-présidente du Canadien. Elle est avec l'organisation depuis de nombreuses années. C'est elle qui s'occupe de tout le volet communautaire. Les aspects caritatifs, là, quand le Canadien investit pour le mieux-être collectif, la Fondation pour l'enfance en est certainement le meilleur exemple. Les patinoires communautaires que le Canadien a bâti un peu partout au Québec, c'est un succès absolument formidable. C'est sans doute la plus belle initiative là, de ce type-là que le Canadien a jamais réalisée dans son histoire. Et Geneviève Paquette est au cœur de ça. Et moi, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup, que je connais depuis longtemps. Et j'estime personnellement que sa présence à la tête de ce programme-là assure le sérieux de la démarche. Parce que Geneviève Paquette, c'est le genre de personne qui te réconcilie avec le Canadien quand tu es choqué contre le Canadien. Quand le Canadien prend des mauvaises décisions ou que le Canadien fait preuve d'un petit peu trop d'arrogance, tu penses à ce que Geneviève Paquette fait dans son rôle, puis tu dis, coudonc, ben, l'organisation, il y a quand même des bonnes choses. Et donc, de la voir à la tête de ce programme-là, elle-même qui aujourd'hui a dit, là, selon l'article qui est publié dans la presse, qui a dit aux journalistes qu'elle avait été très surprise de la sélection de Logan Mailloux, et je pense pas qu'elle a été surprise dans le bon sens, bien sûr. Pour moi, c'est un gage d'un engagement sérieux, très sérieux de la part du Canadien.
Mais la question se pose quand même, c'est la même organisation qui a choisi de repêcher Mailloux à ce moment-là. Penses-tu que ce programme-là, c'est une façon de faire oublier cette sélection-là?
Ben, c'est clairement ça. C'est une façon de faire amende honorable. Et je pense que la question que tu poses, elle est au cœur de l'affaire aussi. Comment se fait-il que le Canadien ait posé ce geste-là? Je sais qu'aujourd'hui, le Canadien ne veut plus parler de ça. Il veut simplement la ligne de l'organisation. On l'a très bien compris là, comment ça s'est passé. Sélection de Logan Mailloux, effet de ressac, conférence de presse de Jeff Molson pour admettre une erreur de jugement. Et là, le Canadien s'est dit, OK, à partir de là, la ligne de relations publiques, on passe à autre chose. On regarde vers l'avant. Marc Bergevin, qui a donné une conférence de presse quelques jours après tous ces événements-là, quand il a été interrogé à de multiples reprises pendant la conférence de presse, à laquelle il a participé là, après les joueurs autonomes et tout, il a refusé systématiquement de répondre à toutes les questions en disant « Non, 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 Jeff Molson a parlé, maintenant on regarde en avant, on regarde en avant. » Puis encore aujourd'hui, ça a été dit « On regarde en avant. » OK. Disons que pour l'aspect des relations avec les gens, le Canadien dit officiellement « On regarde en avant. » Mais j'espère qu'ils vont regarder un petit peu aussi en arrière. Au niveau de la démarche organisationnelle. Comment ça se fait qu'ils ont repêché Logan Mailloux? Logan Mailloux avait dit, et là, je répéterai pas toute l'histoire, là, on la connaît, mais Logan Mailloux avait dit lui-même qu'il n'était pas prêt à être repêché, puis sa victime avait dit qu'il était loin d'être convaincu qu'il avait suffisamment fait amende honorable. Mais le Canadien a décidé quand même de le choisir, créant une tornade dans le monde du hockey. Il n'y a personne qui a compris ça. Et moi, la question que je pense qu'il faut que le Canadien se pose, c'est comment on a pu en arriver au sein de l'organisation à prendre une décision comme celle-là sans que des garde-fous se lèvent, sans que quelqu'un, quelque part, lève la main et dise « Hey, dans le contexte au Québec à l'heure actuelle, c'est impossible, on ne peut pas faire ça, on va avoir l'air d'une organisation complètement déconnectée de la société ». Comment ça se fait que personne n'a levé la main? Ça, pour moi, ça demeure un peu un mystère. Et je pense que le Canadien, ils ne feront pas cet exercice-là pour consommation publique, puis c'est bien correct. Là. Je pense que tout le monde va comprendre ça. Mais j'espère, Patrick, qu'ils vont le faire à l'interne.
OK, parle-nous des Blue Jays, parce que les Blue Jays sont en train de se façonner un bel automne sportif.
Ouais, puis tu sais, j'écoute l'émission, puis j'écoute Philo là à 15h15 qui parle toujours avec tellement d'enthousiasme des Blue Jays. Je sais comme tant d'autres qui écoutent ça avec son fils, puis moi je sais que j'ai des amis qui me parlent des Blue Jays à tous les jours. T'sais, c'est comme un peu fascinant de voir l'impact du baseball là, encore là, toutes ces années après le départ des Expos. Puis là où je suis encore plus étonné, C'est que les Blue Jays, pendant des années, là, la vérité, c'est qu'on les a regardés de très haut au Québec. Les gens qui ont continué de suivre le baseball après le départ des Expos, c'était surtout des partisans des Red Sox de Boston, puis des Yankees de New York, puis bon, il y en avait des Cubs de Chicago, puis il y a toujours un partisan des Dodgers de Los Angeles. Mais tu sais, les grandes équipes, les grandes organisations. Mais les Blue Jays étaient regardés de haut. Personne, les Blue Jays, c'est pas intéressant, les Blue Jays, on les connaît pas, on s'en fout. Une équipe de Toronto, on les aime pas plus que les Maple Leafs. Puis tout à coup, il s'est passé de quoi? Il s'est passé un resserrement entre la population québécoise et les Blue Jays. Et il faut le dire, le premier événement qui a contribué à ça, Patrick, c'est quand les Blue Jays ont décidé de venir jouer des matchs préparatoires au Stade olympique. De mémoire, la première année, c'est 2014. Ça a été la réconciliation entre le baseball majeur et Montréal, et entre Montréal et le baseball majeur. Réconciliation, je pense, dans les deux sens, parce que les deux avaient des griefs l'un en droit de l'autre. Montréal avait des griefs envers le baseball majeur, puis le baseball majeur avait des griefs envers Montréal. Et les Blue Jays ont agi un peu comme un médiateur dans tout ça. Ils sont arrivés puis ont dit « Hey, nous autres, là, on va venir jouer des matchs pré-saison à Montréal. » Puis je me souviens, le président de l'équipe à l'époque, qui s'appelait Paul Gillis, là, je lui avais demandé combien de gens il pensait qu'il allait venir là, la première fois en 2014 aux deux matchs. Il dit « Écoute, si on attire 50 000 personnes, il dit ça va être un succès colossal. » J'avais dit « Quoi, 50 000 personnes par match? » Il dit « Non, 25 000 par match, 50 000 au total. » Bien, cette année-là, il y a eu près de 100 000 personnes qui ont franchi les tourniquettes du Stade olympique. Alors, l'expérience ça a été un succès. Puis ça, moi, je pense que les gens ont apprécié ça. Et après, bien sûr, tu as eu Alex Antopoulos, un ancien employé des Expos, qui est devenu directeur général de l'équipe, qui a donné des entrevues en français à peu près à tous les médias qui voulaient une entrevue au Québec. Il y a eu Russell Martin, bien sûr, qui a porté les couleurs de l'organisation pendant de nombreuses saisons. Rosé Batista, qui avait son fan club partout au Canada et très certainement à Montréal. Et là, on a Vladimir Guerrero Jr., le fils de Vladimir Guerrero. Alors, tu sais, quand tu parles d'une organisation qui a bien joué ses cartes pour aller conquérir un marché qui ne lui était pas gagné d'avance, les Blue Jays, c'est ce qu'ils ont fait avec Montréal et le Québec. Et franchement, il faut leur dire chapeau.
À demain, Philippe. Merci.
Salut.
Salut, c'était Philippe Quentin. OK, au retour, l'enquête de la coroner, Mme Kamel, se poursuit sur tout ce qui s'est passé au CHSLD Aaron au printemps 2020. Et je vous dirais que ça se poursuit dans tous les récits d'horreur. Une journée fait la place à une autre histoire d'horreur. Et vous allez voir, on va en parler avec Annie Guillemette. On n'a pas hâte de vieillir quand on entend ça.